Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois à Québécois. Cette fois, c'est épisode 15. Ouh. Bonjour Charles.
Bonjour Gabriel.
Et aujourd'hui, on vous enregistre, c'est dimanche le 5 novembre, en plein milieu des élections municipales à la grandeur de la province. Moi, je suis allé voter ce matin. En fait, même avant de déjeuner, j'étais tellement excité. Je suis allé avec mon café. J'avais mon café dans la main droite. Puis j'étais comme, wouhou, on va voter. Il y avait une grande file quand je suis sorti. Il n'y avait pas de file quand je suis arrivé. J'espère que ça veut dire qu'on va avoir un bon achalandage aujourd'hui. Puis que les statistiques vont être bonnes. Charles, t'es-tu allé voter ce matin?
En fait, moi, je suis allé par anticipation.
Ah oui. T'avais hâte, hein?
Je me pouvais plus. Non, mais une fois. La dernière semaine n'a pas changé mon opinion du candidat de mon choix, donc...
Non, moi non plus.
Je me sentais pas mal d'y aller.
Non, puis en fait, mon choix est fait depuis un bout, puis c'est pas les diverses interventions dans les médias par Mme Plante ou M. Godard ou les autres maires qu'on n'a jamais vus, les autres candidats à la mairie plutôt qu'on n'a jamais vus qui m'auraient fait changer d'idée. Ça a été... on n'a rien appris d'extraordinaire durant la campagne à Montréal. Fait que, en ce qui nous concerne, je pense pas qu'il y a personne qui a convaincu personne d'un bord ou de l'autre, ou très peu, j'ai pas l'impression.
Ah, on le saura ce soir. Les résultats devraient tomber en début de soirée.
On le saura ce soir. Puis j'ai lisé un article ce matin qui disait que, de toute façon, la bataille est régie dans certains fiefs où il y a le bassin de population est plus important. Il y a des endroits où c'est déjà donné, on sait où les gens votent, ça va tout le temps de la même manière. Fait qu'on va voir ce soir à 18h30 qu'est-ce que ça donne et on aura sûrement l'occasion de vous en parler encore et encore et encore. On va avoir 4 ans pour discuter de la belle décision qui va être prise ce soir puis qu'on a l'intention de le faire. Cette semaine, on a choisi un sujet qui est vraiment pas tout de suite à côté de la politique municipale. En fait, c'est pas vraiment directement relié à la politique, pas en tout, mais on parlerait peut-être plus du politically correct ou dans ce domaine-là, ou au moins dans l'alentour du politically correct.
Ça fait surtout écho à nos chevaliers de la vertu qu'on mentionne à l'occasion.
Qu'on aime tellement.
On voulait sortir cet épisode-là avant Halloween parce que c'était approprié, mais malheureusement, la santé et notre emploi du temps ne le permettaient pas. Ouais. Donc, on se reprend.
Malheureusement, on n'est pas encore des podcasteurs à temps plein. Malgré qu'il y en a qui pensent qu'on nous paye pour faire ça, on n'a toujours pas reçu de chèque.
Oui, d'ailleurs, il serait temps. Là.
Ça serait le fun. Si vous voulez nous envoyer de l'argent, on accepte par PayPal. No problem. fait que vous l'entendez peut-être, j'ai un petit fond de rhume, de grippe là, qui reste. Fait que vous m'excuserez si je m'étouffe à moitié chemin. Mais on va faire de notre mieux pour le couper au montage. Fait que cette semaine, on va s'attaquer au cultural appropriation. C'est un phénomène qu'on entend parler de plus en plus, je trouve. Même moi, je pense qu'on en parle trop, là, que c'est un plus grand enjeu dans les médias que ce l'est réellement dans la vie, là, t'as qu'à moi. Donc, peut-être on commençait par le définir un petit peu. Charles, selon toi, c'est quoi le cultural appropriation?
Ah, ben ce sont de savants sociologues américains qui ont inventé ce concept-là dans les dernières années.
Ça existe des savants sociologues? Ça existe.
C'est un peu ironique. Mais toujours est-il que ici, nos bons justiciers de la politique sociale au Québec sont appropriés les idées de ces sociologues américains-là. Mm-hmm. Et en substance, l'appropriation culturelle, c'est cave. De façon générale, c'est pas mal mon opinion générale sur la question.
Veux dire que la question entourant l'appropriation culturelle est cave ou c'est cave de s'approprier la culture d'un autre?
Les gens qui se sentent offensés parce qu'il y a des échanges culturels, là, j'ai bien de la misère avec ces gens-là. Et ça donne que souvent, ces gens-là entretiennent d'autres opinions complémentaire, je trouve tout aussi répréhensible. Comme on dit, la pomme tombe pas très loin de l'arbre. Mm-hmm. ce qui m'a fait réagir et qui m'a donné un peu l'idée de faire le podcast sur ce sujet-là, c'est un article du populaire blog féminin tonpetitlook.com.
Tonpetitlook.com.
Ouais. Ouais, ouais.
Okay, puis c'est qui entretient ces affaires-là? C'est...
Quelques féministes, là.
OK. OK.
Fait qu'en temps normal, ils parlent de choses sur lesquelles elles ont un champ d'expertise, comme les accessoires de mode, le maquillage, puis des fois, ça s'aventure en territoire plus nébuleux. Et l'article qui est paru à la fin du mois d'octobre s'intitulait « Ton petit guide à suivre absolument pour un costume d'Halloween non oppressif. »
Oh boy.
Avec le sous-titre « Déguise-toi sans opprimer personne et sans t'approprier d'autres cultures. » Et là, on avait une liste en 9 points de types de costumes qui sont répréhensibles, en ce sens qu'ils perpétuent le racisme, la misogynie, ou n'importe quoi là, qui passe bien sur BuzzFeed. Ah, c'était fâchant à lire et sans surprise, le fil de commentaires de cet article-là a été verrouillé. Parce que, et avec raison, il y avait un solide backlash. Parce que les gens disaient qu'ils allaient être beaucoup trop loin, et c'est vrai. Par exemple, à toute la pratique, on apprend qu'une enfant de 6 ans qui veut se déguiser en princesse n'en a pas le droit. C'est de l'appropriation culturelle que, par exemple, pour une enfant de 6 ans qui veut se déguiser en la princesse Moana, la populaire héroïne du dernier film d'animation à la mode. Donc ça, c'est inacceptable. Je me demande si on dirait la même chose à une petite fille noire qui voudrait se déguiser en Cendrillon. J'espère que non. Tant qu'à moi, un enfant qui veut mettre un costume, laissez-les mettre un costume!
Les enfants, à cet âge-là, à 5-6 ans, je pense qu'ils ne se rendent même pas compte. Tu sais, c'est drôle qu'on parle de ça aujourd'hui, parce que ce matin, je regardais une activité qui avait été faite avec des enfants de 5 ou... Il y avait à peu près ça, là, 5, 6, 7 ans max. Puis ils leur demandaient... Tu sais, il y aurait eu, par exemple, comme une petite fille d'origine asiatique avec un petit garçon blanc qui jouait ensemble, puis la personne leur a demandé « C'est quoi qui est pareil entre vous autres? C'est quoi qui est différent de vous autres? » Puis il aurait dit des choses comme « Ah ben, moi j'aime la sauce aux tomates, puis lui, il aime pas la sauce aux tomates. » Jamais qu'il était question de leur couleur ou de leur apparence. Ou... À un moment donné, ils ont mis même une petite fille en chaise roulante avec une autre qui n'était pas en chaise roulante, puis il a jamais été question de la chaise roulante. Fait que je pense qu'à cet âge-là, là, la petite fille qui veut être Cendrillon, là, on s'entend que elle veut juste être une princesse. Puis ça donne que c'est ça, la princesse, qui était la mode de la journée quand elle a décidé qu'elle voulait être une princesse. On parle pas de culture ici. On parle, en fait, quand on veut aller plus loin que ça, cette princesse-là, là, c'est une fiction créée par une corporation américaine qui cherche à faire de l'argent, puis on s'énerve le poil des fesses pour de la cultural appropriation. La culture de qui exactement, là? Moi, je suis pas vendu.
C'est qu'il y a des gens qui sont offensés très facilement. Puis, tu sais, par rapport au costume des enfants, il y a même des mélanges intéressants. Moi, j'ai vu mi-princesse, Cendrillon, mi-Batman. Pourquoi pas?
Mais why not?
C'est des enfants. J'ai un peu plus de... Je comprends plus les réserves d'adultes qui se costument. Parce que là, oui, des fois, ça peut... ça peut déraper.
Ça peut déborder. Mais
ouais, ouais. Mais comme n'importe quoi. C'est pas particulier, les déguisements d'Halloween, mais on en fait un gros enjeu. Il y a eu des articles écrits dans les médias sur ce qui était approprié ou non. Il y a eu un directeur, je pense que c'est le directeur des 4e et 5e secondaires d'une école secondaire, qui s'était déguisé en Bob Marley, puis qui a dû s'excuser publiquement en faisant une tournée de classe, parce que c'était donc raciste de se déguiser en Bob Marley, puisqu'il avait mis sa face brune. Non?
Puis là, je peux déjà l'entendre dans notre audience qui vont dire « Mais oui, mais c'est du blackface. » OK, fine. C'est peut-être du blackface. Mais on s'entend qu'il y a une énorme différence entre se déguiser en Bob Marley et se déguiser en esclave du 19e siècle avec la face maturée noire. C'est pas le même contexte. Là. Pense à ça. Bob Marley, là, c'est-tu quelqu'un qui est opprimé, qui est... Tu sais, qui a la vie difficile. Moi, je serais porté à dire que non. En fait, c'est quelqu'un qui a probablement une vie assez aisée, qui peut-être a beaucoup d'admirateurs. Puis je vois pas le problème en soi de se déguiser en Bob Marley. C'est comme Puis ça, je l'ai vu à la télévision récemment, puis l'émission m'échappe. C'était un Américain noir qui s'était déguisé en Donald Trump, puis qui s'était peinturé la face un petit peu en blanc, avec les cheveux jaunes, pour faire passer le message que c'était Donald Trump. Il n'y a personne qui s'énerve, là.
C'est récent, cette histoire-là, hein? Parce que si on monte, peut-être que vous allez vous en souvenir, moi, j'ai beaucoup apprécié les bye-bye de fin d'année de RBO. Rock et Belles Oreilles, il y en a fait deux, 2005-2006, ma mémoire est bonne. Dans un des deux, là, il parlait du Darfour. Il y avait la toune, là, Agadou, bon. Hein. Ils ont remplacé les paroles par une critique de ce qui se passait au Darfour. Et tous les gars de RBO avaient la face noire. Ça a été bien drôle, le monde en ont ri. Quelques années après, Louis Morissette se déguise en Obama et c'est la crise nationale.
Ouais. Mais là, les gens pourraient te dire comme argument contraire que. Tu sais, au fil des années, les mœurs changent. Ce qui est acceptable dans une société change aussi. Donc, ce qui était correct il y a quelques années n'est plus correct maintenant. Est-ce que c'est acceptable d'un groupe comme Rock et Belles Oreilles Louis Morissette, de s'habiller en blackface? Est-ce qu'on accepte ça en tant que société? En ce moment, la société semble dire non.
Donc, je ne suis pas convaincu de ça.
Mais... C'est là que je m'en viens. Moi, je sais... Ça, c'est un sujet, en fait, que j'ai parlé avec plusieurs de mes amis qui sont d'origine noire, surtout des Caraïbes. Ça offusque moins mes amis qui sont d'origine africaine. Étrangement, ça les autres, ça semble les déranger un peu moins. Là. Mais les gens des Caraïbes qui ont un passé esclavagiste, les Afro-Canadiens, les Afro-Américains, se sentent personnellement offusqués par ce genre de déguisement-là, si on peut dire. À cause justement du passé des ministrels puis de tous les bizarreries qu'il y a eu dans les années dans le 19e puis début du 20e siècle avec le blackface qu'on appelait. Donc, est-ce que ça ne devient pas notre responsabilité en tant que blanc ou en tant que d'autres cultures d'être quand même conscient de l'effet que ça peut avoir sur les communautés culturelles?
Moi, je trouve que non. Personnellement, là, je trouve que si une personne est offensée par un costume, on a des sérieuses questions à se poser sur leur équilibre psychologique.
Mais ça serait pas aussi de dire... il y a des gens qui sont offensés par ben des choses.
Oui, les gens veulent un droit de pas être offensés. Puis là, on arrive avec des censures de l'expression. Mm-hmm. On arrive avec... Et quel que soit, là, on censure les discours, on censure les propos, on censure l'habillement... On censure les comportements.
Non, mais c'est pas vrai. On n'est pas censuré, là. Il n'y a personne qui t'empêche de le faire. La police ne va pas descendre chez toi parce que tu t'es habillé en blackface.
Tu penses?
Ben, c'est clair.
Oh, attention, on a des causes aux États-Unis.
On n'est pas aux États-Unis.
Non, mais ça s'en vient ici aussi.
Ah, je pense pas. Moi.
On l'a approprié, hein, fait qu'il y a un petit peu de retard, mais, mais ça s'en vient ici aussi. La tendance est assez lourde, en fait. Je pense justement au cas de qui est arrivé à l'université de Yale, mm-hmm. où il y a deux professeurs en charge de la vie étudiante, si ma mémoire est bonne, qui ont perdu leur emploi parce qu'ils avaient fait un party d'Halloween et des gens avaient été offensés par des costumes qui étaient présents. Mm-hmm. Et eux leur avaient dit, ben écoutez, c'est Halloween, c'est des costumes, on va pas virer fou là-dessus, puis ça avait créé un tollé. Je pense que c'est arrivé en 2014 ou 2015, il faudrait que j'aille vérifier.
Mais ces gens-là ont perdu leur emploi pour une question
de costume.
Moi, je veux dire, le fait qu'ils ont été mis dehors par l'université, je le comprends. Okay?
Gab!
Je dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord. Je dis que je comprends le raisonnement de l'université derrière ça. Si tu regardes comment la société fonctionne aujourd'hui, si tu regardes qu'est-ce que la société accepte et n'accepte pas, Yale, c'est une institution qui veut être à l'avant de la société, qui a une réputation, qui ne veut pas être vue comme une société, une institution qui est arriérée. Donc, en quelque part, ils n'ont pas le choix. Je vois pas comment ils pourraient accepter ça sur leur campus. Moi, je suis toujours très conscient de qu'est-ce que mes actions font par rapport aux directives de mon entreprise où je travaille. Je connais très bien c'est quoi les politiques puis la position de mon entreprise sur beaucoup de choses. Puis je sais que si je vais au-delà de qu'est-ce que l'entreprise accepte, que c'est ma job que je mets à risque. Fait que ces professeurs-là, je suis sûr là, que c'était pas une surprise pour eux autres là, que Yale n'accepte pas le blackface. T'as pas besoin d'être...
mais c'était même pas une blackface, c'était des costumes... je crois que c'était amérindien.
OK, ben même affaire. Là, c'est amérindien, blackface, c'est le
moi, les deux gros.
Les deux finissent par avoir le même effet, là, je dirais.
Moi, je vois plutôt d'avis qu'une université devrait se faire... Le défenseur des idées classiques qui ont mené notre civilisation à son apogée.
Mais voici pourquoi ils ne peuvent pas. Les universités comme Yale, comme beaucoup d'autres institutions comme McGill, par exemple, ils dépendent des dons. La majeure partie de leur financement, ça vient des dons. Puis si les gens sont offusqués par ce qui se passe à l'intérieur de leur mur, les dons, ils ne vont pas venir. Moi, quand j'écoute, j'ai déjà travaillé à McGill dans le département de l'alumni, puis je pense que je ne fais pas de secret là, en dévoilant que c'est des millions et des millions et des millions de dollars à chaque année qui sont reçus en dons par les anciens et anciennes, les amis, les Seagrams. Oh my God, la famille Seagram, c'est mon goal, tout ce qu'ils ont donné à l'Université McGill. Donc, c'est clair que ces gens-là, là, ils peuvent choisir de mettre leur argent ailleurs.
Oh oui, on parle de cash.
Oh oui. Puis, la philanthropie, c'est un business en soi, puis c'est compétitif. Quand je travaillais là, dans le département on appelait ça le Alumni Relations, là, il y avait des gens que c'était leur job à temps plein, ça s'appelle cultiver, on cultivait la relation avec des futurs donateurs pour en tirer le maximum de cash le jour où ils vont péter aux frettes. Faut s'assurer que l'organisme était dans les testaments des gens ou qu'ils faisaient des dons substantiels année après année. Fait que je comprends pourquoi une institution comme Yale ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de situation-là dans son entourage. Ça, c'est un côté de la médaille. L'autre côté de la médaille, c'est est-ce que c'est juste? Là, je suis moins certain, par contre. Parce que, tu sais, en quelque part, on a tous le droit à l'expression. On a tous une façon de parler, là, mais on devrait tous avoir le droit de dire ce qu'on pense, puis s'habiller comme on veut, puis se costumer comme on veut, sans avoir peur de perdre sa job. Mais l'effet de comment la société fonctionne n'est pas là. Puis je pense que juste s'arrêter à dire que Yale a fait une mauvaise décision, peut-être qu'ils ont fait une mauvaise décision, puis que c'est pas fair pour le prof. Mais je comprends comment ça pourrait leur virer contre eux autres.
Tu vois, moi, je t'amènerais le contre-argument qu'en fait, les universités qui s'engagent activement dans la justice sociale perdent énormément de financement. Je pense notamment à l'Université du Missouri qui a vu ses revenus diminuer d'à près 30%. Ils ont dû fermer plusieurs campus parce qu'ils ont embarqué à fond la caisse dans les revendications du groupe Black Lives Matter. Ils n'étaient plus pris au sérieux dans la communauté scientifique. La valeur du diplôme descendait. Les étudiants sont allés ailleurs, puis les dons ont suivi.
L'Université de Missouri aussi, il ne faut pas que tu oublies, c'est une université qui est dans le sud. Le contexte de chaque université doit être respecté, j'imagine.
Mais le point, c'est que c'est une université qui se porte bien jusqu'à ce qu'elle s'y embarque avec des politiques de discrimination positive.
Oui, puis le Missouri, c'est pas reconnu pour être un endroit les plus progressistes aux États-Unis. Là. On s'entend, là, c'est...
Mais il y avait plein d'étudiants noirs qui ont été diplômés de cette université-là.
Ouais.
Les choses se sont dégradées quand ils ont commencé à en faire une obsession. Et moi, je vois
l'appropriation culturelle. Mais si tu regardes économiquement parlant, là, au Missouri, c'est pas les Noirs qui ont l'argent. Il y a un grand écart économique.
Mais quand on parle de cash, il y a l'autre argument aussi en contrepartie. Quand les universités font des politiques comme celle-là, elles vont s'antagoniser des donateurs potentiels aussi.
Mais c'est ça que je te dis. Je dis, en quelque part, tu prouves un peu mon point, dans le sens où au Missouri, ils n'auraient pas dû supporter Black Lives Matter, mais je te dis que Yale, par contre, les donateurs, c'est pas les mêmes. Ils vont être plus à la droite ou plus point de vue de...
Je comprends le principe, mais je trouve ça quand même ridicule qu'on en soit rendu là collectivement. Parce que c'est tout récent, ça fait pas longtemps.
Oui, de 5 ans passés, on parlait jamais de cultural appropriation.
Jamais.
Puis là, tout d'un coup, là, tout le monde s'énerve le poil des fesses avec ça.
On va peut-être un peu définir le concept, parce que là, on a jasé un petit peu du contexte, là, mais plus en détail, là, c'est quoi cette histoire-là? C'est l'idée selon laquelle la culture est la propriété exclusive d'un groupe de personnes ou d'une civilisation particulière, mm-hmm. et qu'il faut, si tu viens d'une autre culture, il faut avoir leur autorisation pour emprunter certains rituels, certains costumes, certains repas. Bon, n'importe quel attribut déterminant de leur culture. D'emblée, là, une culture, là, c'est pas une propriété. C'est pas un bien, tu peux dire ça, c'est à moi. Puis,
ça se vend pas sur le Stock Exchange de New York. Là.
Et c'est l'idée ridicule selon laquelle une personne peut accorder une permission à une autre personne d'utiliser sa culture. Celle-là, là, je la comprends pas. Et ça dérive dans les deux bords, hein, ça, cette histoire-là.
C'est clair.
Toute la gang qui brûlait les livres, c'est toutes des gens qui cherchaient à rendre leur culture pure, hein, à vouloir ségréguer les origines culturelles, que ce soit après la chute... c'est quoi déjà le nom au Japon au 19e... Je pense que c'était 18e, 1850 quelque. La chute du shogun, là, t'avais des guerriers Shinto qui allaient tuer les bouddhistes parce qu'ils disaient que c'était une culture chinoise infecte, puis ils tuaient ça pour purifier leur culture. Si tu regardes durant l'apartheid en Afrique du Sud, les prisonniers noirs avaient pas le droit de manger de pain parce que c'était... le pain était la culture des Blancs, puis les autres, ils mangeaient à la place du maïs. C'est ridicule! Ça dégénère à ça.
Ah oui.
Ça ne peut que dégénérer, et on le voit chaque année, ça mm-hmm. s'amplifie. Mm-hmm. Et je sais pas où est-ce que ça va s'arrêter. Heureusement, il y a l'Université de Chicago qui a fait un communiqué disant que chez eux, les chaussures de Justice Warrior n'étaient pas les bienvenus et qu'ils faisaient de la recherche sérieuse. Donc, merci à l'Université de Chicago d'être une des rares universités américaines qui font encore du sens.
Wow.
Ah, ça il me fâche assez. C'est aberrant comment c'est cave.
Puis, plus proche de chez nous, on a des exemples plus proches du Québec même.
Ben, peut-être qu'un de mes exemples préférés, c'est encore une fois un sociologue. Écoute, ces gens-là, s'ils n'existaient pas, faudrait pas les inventer. C'est un sociologue qui a fait sa thèse de maîtrise puis qui l'a présenté à l'université Ryerson à l'effet que le Canada s'était approprié la poutine et que ça, c'était raciste puis nuisible à l'identité québécoise puis qu'il fallait se battre contre ça. Puis...
Oui. Voyons donc.
Hey, que tu prennes n'importe quelle culture au monde, là, il n'y a jamais rien de bon qui est sorti par l'isolationnisme. Ce qui marche, c'est le partage des idées, le partage des bonnes idées surtout. Puis quelqu'un qui part avec une base puis qui l'améliore, c'est souhaitable. Et tu prends n'importe quel repas là, que tu vas prendre en France, en Allemagne, en Autriche, en Italie, tu prends leur plat, tu dis « Ah, c'est quoi l'origine? » Bien souvent, ils se retrouvent ailleurs. Mais par les échanges culturels, ils ont grandi comme peuple. Puis ils ont pu arriver à se forger une identité.
C'est ridicule. Ça serait comme dire qu'à chaque fois qu'on mange des frites, qu'on s'approprie la culture belge. Ça n'a aucun sens. Techniquement, la poutine, c'est quoi? Ben, c'est un mélange de nourriture européenne avec une interprétation québécoise.
Puis, ça, cette idée-là de la culture, c'est que tu peux faire une régression infinie là-dessus puis dire « Ben là, est-ce que les jeunes Victo se sont appropriés la culture de Drummondville? » C'est une régression infinie. Est-ce que les jeunes de Montréal se sont appropriés la culture de Victo puis de Drummond avec la poutine? C'est n'importe quoi. C'est l'idée sous-jacente que les groupes sont en réalité que les gens sont en réalité un collectif. On va juger les gens par rapport à leur groupe identitaire, puis c'est là-dessus qu'ils vont être jugés. Donc, toi, en réalité, Gab, t'es pas Gabriel. T'es un homme blanc hétérosexuel qui vient d'Acadie. Puis si tu fais de quoi qui n'a pas rapport avec ta culture de naissance, c'est raciste, puis name it. Hein, c'est un collectiviste.
J'ai été obligé de justifier quand j'ai publié mon livre il y a 3 ans. J'écrivais à propos de... C'était en fait, l'histoire se déroulait en Afrique. C'était une fiction qui se passait en Afrique. Puis je me suis fait demander à plusieurs reprises si j'avais pas peur de conter une histoire africaine parce que j'étais blanc. J'ai vécu là-bas. C'est mon interprétation de qu'est-ce qui s'est passé. J'ai bien le droit de parler de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris, de mon interprétation de toute cette histoire-là. Fait que... Mais les gens... ils étaient mal à l'aise avec ça. Puis à chaque fois, je leur disais, pour calmer les esprits, là, je disais, inquiétez-vous pas, j'ai fait réviser par un Africain. C'était vrai, j'avais en effet fait réviser par un Africain, mais pas parce que je voulais avoir une autorité, une autorisation de quelqu'un de l'Afrique,
oui.
Mais parce que je voulais m'assurer que j'avais pas dit des conneries ou que j'avais pas, tu sais, je voulais savoir. En fait, dans mon livre, je parle beaucoup des croyances mystiques africaines traditionnelles, puis je voulais être certain de ne pas avoir manqué le bateau ou d'avoir dit une connerie complètement absurde, puis c'était pas le cas.
Oui, mais ça c'est correct, tu valides tes informations. Oui, c'est ça. T'as pas demandé autorisation.
Mais jamais de la vie que j'ai demandé l'autorisation, puis il y a jamais personne qui m'aurait empêché de toute façon. Fait que, anyway, je trouvais que c'était aller un peu loin de ce côté-là. Mais
de toute façon, à peu près tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est un remix de quelque chose.
Oui, c'est
que clair. Tu parles de musique, de nourriture, d'art. Et je me trompe pas, c'était quoi? C'était Rimbaud avec l'impressionnisme là, qui s'était largement inspiré d'un style de peinture du Japon avec des couleurs très vives. Il s'est réapproprié ça, puis il l'a twisté d'une autre façon, puis bam! Un nouveau courant artistique. Mais
l'art, c'est tout le temps une réinterprétation.
Tout est un remix de tout.
Mais c'est clair.
Star Wars n'aurait pas existé sans les... Je crois que c'est, le film, c'était Les Sept Samouraïs. Je pense que c'est ça.
Ça me semble,
toutes les... C'est bien rare qu'une personne va inventer quelque chose de toute pièce. Souvent, on part de plan de quelque chose qui existe déjà. Puis on se dit, je vais l'améliorer ou je vais m'en inspirer pour bâtir de quoi de meilleur. Présentement, là, toute la gang, c'est largement des chercheurs de Justice Warriors, y compris les féministes, ils sont complètement obsédés par les attributs identitaires. Ils voient plus les gens comme des individus, ils les voient comme des groupes. Et c'est très dommageable parce que moi, je suis pas un groupe. Je suis un individu doté d'une, de qualités qui me sont propres. Oui, je vais avoir des traits en commun, mais ils sont pas exclusifs. Je vais avoir des traits en commun avec d'autres groupes auxquels je n'ai pas nécessairement d'affiliation. Les identités, c'est quelque chose de très complexe, de très malléable, et c'est pas vrai qu'une personne peut juste t'étiqueter en disant « ben toi, t'es comme ça, fait que si tu oses faire telle action, t'es automatiquement un raciste, puis on va s'arranger pour que tu perdes ta job. »
Le danger avec tout ça, là, c'est que si on s'attarde trop sur l'identité, sur le fait que le cultural appropriation, c'est problématique, ça continue à alimenter des crises identitaires nationalistes. J'ai vraiment l'impression que en forçant les gens, en restant chacun de son bord avec sa culture, puis que tu te fermes à tout le reste, que ça peut être dangereux de ce côté-là. Que ce soit d'un point de vue de religion, que ce soit d'un point de vue de culture, de chant, de musique, de théâtre, de pays avec un autre pays... Moi, je suis d'avis que plus c'est mélangé, moins il va y avoir de conflits à ce niveau-là. Parce que souvent, on a peur de l'inconnu. Puis plus on reste centré sur nous-mêmes dans notre bulle, plus on a peur de ce qu'il y a à l'extérieur de la bulle. Fait que moi, je vois comme l'extrême du cultural appropriation, tant qu'à moi, c'est vraiment ça. C'est le fait que tu t'isoles encore de plus.
Ben, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont obsédés par la diversité, mais une diversité qui est appréciée de loin, voire même qu'on peut juste pas apprécier, en fait, parce que si on le fait, on va de toute façon offenser quelqu'un. Et sont obsédés par l'identité d'attributs ethniques, par exemple, mais la seule forme d'identité qui les rebute, c'est la diversité d'opinion. Ça, là, ça, ils aiment pas ça. Parce que moi, j'ai perdu beaucoup d'amis sur Facebook à cause de mes prises de position.
Ah, c'est pas grave.
Non, je sais, c'est pas une grande perte, là. Shout-out aux personnes qui m'ont unfriendé.
Je garantis qu'ils écoutent pas.
Non. Mais écoute, c'est des gens qui sont incapables d'accepter que des gens puissent entretenir une opinion différente de la leur. Gab, toi, puis moi, si on n'est pas d'accord, je vais quand même, tu sais, aller jaser, là.
En fait... Beaucoup de discussions qu'on a eues, moi pis toi, qui étaient vraiment les discussions les plus intéressantes, ben c'est celles-là où on n'était pas d'accord.
La diversité
exactement.
D'idées, c'est ça la diversité qu'il faut mettre de l'avant. Puis les idées, on les a en tant qu'individus, pas en tant que groupe. Alors un modèle social qui fonde la valeur d'une personne sur son groupe identitaire est voué à l'échec. On a un très bon exemple avec ça. C'est l'économiste Thomas Sowell qui s'est beaucoup intéressé aux flux migratoires. Et lui, il a regardé comment se comportaient les populations en fonction du temps. Et lui a pu montrer mathématiquement les avantages de la mixité culturelle. Puis par mixité, je veux dire de l'appropriation culturelle. C'est extraordinaire, l'appropriation culturelle. Mm-hmm. C'est sans doute le mécanisme qui a permis à l'humanité d'avancer le plus vite. Le savoir puis les progrès technologiques, ça se fait dans les plaines où les gens vivent en groupe, pas isolés dans les montagnes.
Mais oui, mais imagine si on appliquait ça à la mutuelle scientifique. Il n'y aurait aucune découverte, ça s'arrêterait là. On aurait eu la roue, puis ça aurait arrêté là. On serait pogné avec le feu, puis la roue, puis d'habitude, on arrête.
Le progrès de l'humanité s'est fait par échange culturel, par copie, par transformation. Puis il n'y a rien de méprisable dans le fait de vouloir s'intéresser à une autre culture. Je voyais des gens qui étaient sur des blogs de cuisine, puis qui disaient que c'était raciste d'essayer de faire de la cuisine japonaise ou singapourienne. C'est ridicule. Si dans notre auditoire, il y a des gens qui pensent vraiment là, que c'est raciste que de mettre un costume de Moana à sa fillette de 6 ans ou de cuisiner un repas de Singapour en étant du Québec, je vous comprends pas.
Non, moi je vais te montrer...
Écrivez-nous, je veux savoir comment vous pensez, parce que moi, je le suis pas. Là.
J'ai deux recettes des Caraïbes que je fais, que j'ai servi à des vieilles madames des Caraïbes. Puis ils l'ont dévoré, mon poulet jerk. Puis ils l'ont...
Tu m'en as même pas fait.
T'en as même pas fait. Je vais t'en sauver un pilon la prochaine fois. Puis je fais aussi un curry du Trinidad que j'ai servi à des petites madames du Trinidad, puis qui croyaient pas que ce poulet-là avait été fait par un petit blanc. « Hey, that white boy made this chicken! » c'était vraiment quelque chose. Mais... il n'y en a pas une qui a été offensée parce que j'ai fait du poulet de leur pays. C'était le contraire. Oui. Ils étaient tellement contents de voir que quelqu'un s'était intéressé assez à leur culture pour aller au marché Jean Talon chercher les hosties d'épices à 15$ pour un petit pot de 30 grammes importé du Trinidad pour faire leur poulet. Écoute, ça va trop loin. Là. En général, là, moi, je trouve les gens qui s'offusquent pour le cultural appropriation, c'est comme des gens... qui sont souvent même pas partis de cette culture-là. Là. Moi, c'est un peu ça que je vois là, quand les gens s'énervent.
Ouais, c'est ce qu'on disait dans le premier podcast, c'est les chevaliers de la vertu qui veulent scorer des points dans les victimes dans les Olympiques de la victimisation. Et chialer contre l'appropriation culturelle, ça donne beaucoup de points. Parce que c'est très populaire.
Oui, en ce moment, tu as beaucoup de likes sur Facebook quand tu...
Mais on va aller une coche plus loin dans l'explication du phénomène.
Ah oui, go.
Bon. L'idée sous-jacente à cette histoire-là, c'est qu'il y a une forme de hiérarchisation des cultures fondée sur une relation d'oppression.
OK.
Donc, la culture des Blancs, par exemple, est au top de la pyramide et opprime tous les autres en dessous.
On est les winners.
C'est ça que je disais, mais tantôt, on est le dernier boss du jeu de la vie. Ouais. Bon. Le ultimate evil. Et évidemment, ça fait aucun sens. On peut juger les cultures en fonction de leurs résultats, mais ils n'ont pas une valeur intrinsèque. Il y a personne qui... Il faut vraiment être un peu timbré pour penser qu'il y a des gens qui ont une valeur de dignité différente. Mais bon, moi, je vois les gens comme des individus, puis je les juge en fonction de leurs actions. Mais cette idée-là de hiérarchisation basée sur l'oppression, c'est ce qu'on appelle du marxisme. C'est l'idée selon laquelle il y a des classes bourgeoises puis des classes de gens opprimés en dessous et que la seule façon de s'en sortir, c'est une révolution. Et à toute fin pratique, le mouvement des Social Justice Warriors est une réactualisation du marxisme qui, après avoir perdu le débat économique dans les années 60, est revenu sous forme de marxisme culturel.
C'est une révolution Facebook.
Ben, les marxistes ont perdu le débat économique...
C'est une révolution virtuelle.
Ben oui, mais ils font des likes.
Il n'y en a pas un deux autres qui va se ramasser un fusil pour aller shooter le monde. C'est que... Puis là, disclaimer, je dis pas aux gens d'aller se ramasser des fusils pour shooter le monde.
Sinon, tu vas faire comme la voix, là.
Ouais, c'est ça.
À LCN, là, qui a un peu de merde avec ça.
Ouais.
Mais le point, c'est que le marxisme était une idéologie corrompue qui ne fonctionnait pas tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Et là, ça a perdu le débat économique. Parce que force est d'admettre que 100 millions de morts, c'est pas un très bon bilan au 20e siècle. Et là, il y a des marxistes, par contre, qui ont voulu réactualiser ça, mais par la culture, et ça passe beaucoup mieux. On commence à voir ça dans les années 70. Le marxisme culturel commence à revenir tranquillement pas vite.
Ça veut dire que toi, par défaut, ton argument, c'est qu'il n'y a pas d'oppression dans aucune des cultures, que toutes les cultures sont égales, puis qu'il n'y en a pas une qui est supérieure.
Non, juste que c'est les individus qui font la culture.
Ouais.
Et oui, il y a des situations où des individus ont été opprimés par d'autres groupes d'individus, mais il y a pas un... Moi, je vois pas une hiérarchisation de culture. Je pense pas qu'il y a une culture qui est supérieure aux autres en valeur ou en dignité. Il y a des cultures qui vont produire différents résultats.
Je pense pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, là, mais je pense que d'un point de vue social, il y a des cultures qui sont plus valorisées que d'autres. Ça, je pense que ça, c'est probablement vrai, mais il faudrait que j'y réfléchisse plus. Là. J'ai pas
ouais, vraiment de... Je lance l'idée de la réactualisation du marxisme culturel, puis on y reviendra parce que c'est un thème quand même assez dense, mais je voulais juste lancer l'idée qu'en réalité, ce à quoi on assiste, c'est une montée de marxisme culturel en Occident. Et malheureusement, ça, c'est incompatible avec les fondements de la civilisation occidentale.
Ouais.
Ça ne fonctionne pas.
Ouais.
Et là, c'est de savoir où est-ce que ça va clasher. Où est-ce que ça va être quoi le point de non-retour où ça passe ou ça casse? J'ai l'impression qu'on n'en est pas très, très loin. On verra, mais... l'histoire de l'appropriation culturelle, il faut être très vigilant avec ça, parce que les dérives, là, c'est les idées de pureté culturelle où les gens vont aller purger les autres parce qu'ils vont les voir comme étant inférieurs et hostiles à leur culture, à eux autres. C'est très, très dangereux. Et je suis convaincu là, que les gens qui prêchent pour ça sont bien intentionnés. Mais il faut voir le portrait d'ensemble. C'est une idéologie divisive qui perpétue la ségrégation culturelle des gens fondée sur leur groupe identitaire. C'est la définition même du racisme. Tu sais, dans les années 50, là, si tu voulais juger les gens avec des standards identiques, on te considérait comme un radical. Dans les années 70, tu étais considéré comme un libéral. Puis aujourd'hui, ben, t'es un raciste. Tu sais, c'est ça la dérive du politiquement correct.
Ouais.
Mais bon, moi, peine de la misère avec ça. Puis à chaque année, préparez-vous, l'année prochaine, là, ça va être encore là, les interdictions des déguisements d'Halloween. Puis ça va être sur vos enfants.
Il n'y a pas d'interdiction. Là.
Oh, ça s'en vient, ça?
Mais non. Moi, je pense pas que ça s'en vient.
Il y a Walmart qui a commencé à retirer beaucoup de costumes parce qu'il y avait des gens qui avaient chialé sur Facebook.
Oui, mais c'est la volonté du peuple.
C'est la volonté de quelques personnes qui se servent des médias sociaux pour faire du public shaming.
Je sais pas, il faut quand même qu'il y en ait plusieurs pour que ça attire l'attention de ces gens-là.
Ah oh non, ben écoute, ça prend pas nécessairement beaucoup de gens. Là, l'affaire avec le crucifié à l'hôpital de Québec, là, c'était une plainte qu'il y avait eu contre le crucifié. Ouais. Une plainte. Ça prend pas grand monde. Là. Mais on est tellement apeuré d'offenser. Mais
de l'autre côté, c'est que institution publique qui se veut laïque devrait pas avoir...
Oui, mais c'est un hôpital qui était historiquement géré par les religieuses.
So what?
Bon. Mais le point, c'est que ça a pris une personne. Et les gens étaient tellement apeurés à l'idée d'offenser quelqu'un qu'ils ont immédiatement réagi.
Mais je sais pas, est-ce que c'est l'offense ou est-ce qu'ils se sont dit, bon, ben, ils ont raison, là, ça a pu sa place
ici. Moi, je pense pas que... Si ça avait été la deuxième option, là, puis qu'ils avaient réfléchi, ouais, je pense que cette personne-là a une demande légitime, on y a bien réfléchi. Il y aurait eu un débat public sur la question.
Bon, mais je pense qu'on aura sûrement la chance un jour de parler de la laïcité.
Ah ben
j'ai
oui.
L'impression que c'est un sujet qui va revenir dans assez... Oh, mais
encore en ce moment, il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui a ramené ça à l'Assemblée nationale pour le crucifix. On s'en sort pas!
Gabriel Nadeau-Dubois.
Notre Gabriel national. On vous réserve quelque chose de spécial pour...
Le prochain
pour le 19 novembre. Oui. Gardez ça dans votre tête. Pensez à... Essayez de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe le 19 novembre?
Oh, c'est un grand jour.
C'est un grand jour. Les médias n'en parleront pas. Ça va être la seule personne.
Je garantis que si vous réussissez à trouver des médias qui en parlent, on apprécierait que vous nous envoyiez le lien.
Parce que moi, j'en ai jamais vu à date de la dernière année.
Moi, j'en ai vu une ou deux fois, mais genre plus comme une mention en joke le matin sur l'émission Live with Kelly. Je pense que c'était Kelly and Michael à l'époque. Fait que donc, je l'ai déjà vu, mais c'est rare, puis c'est plus en farce. Mais nous, on vous réserve quelque chose où on va prendre ça peut-être un petit peu plus au sérieux que la plupart des médias, parce qu'on trouve qu'il y a du sérieux à discuter autour du 19 de novembre.
Donc, essayez de réfléchir, qu'est-ce qui se passe le 19 novembre? Si vous le trouvez, écrivez-nous.
Puis on vous fera un petit shout-out la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, merci encore une fois d'avoir été avec nous. On vous rappelle, notre page web, c'est québecquois.ca. Laissez-nous des commentaires, likez-nous, suivez-nous sur Facebook, Québécois Balado. Sur notre page web aussi, on a toutes les informations pour que vous pouviez nous suivre à long terme sur iTunes ou Google. Cherchez dans n'importe quel des podcatchers préférés pour Québécois Balado, puis vous allez nous trouver. En plus de ça, on a notre ligne téléphonique 1-888-458-4443, 1-888-458-4443. Laissez-nous des petits messages, on va vous faire des petites réponses. Donc, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup. À la prochaine, Charles.
À la prochaine.